Je tiens à commencer tout d'abord par non pas tellement renouveler les remerciements institutionnels, parce que il n'y a personne de l'institution qui est là à présent, mais surtout vous remerciez, vous, en fait, les participants de ce colloque, de nouveau, non seulement pour avoir répondu à notre appel, mais surtout au cours de ces 3 jours pour avoir joué le jeu véritable de la discussion. Comme je le disais au départ, hein, cette proposition de colloque part à la fois des axes de recherche qui ont été reconduits par Jean-Philippe sur la genèse de l'État moderne vers la question du pouvoir symbolique et de la structuration par le pouvoir symbolique de la société politique. Et puis, Jean-Philippe m'a fait, depuis 2002, avec le colloque sur les coups d'État, hein, confiance. D'une part, et ensuite a toujours soutenu mes projets sur les fondements du pouvoir politique avec les coups d'État, et ensuite sur le programme, sur le contrat. Et c'est un peu l'articulation de ces deux axes, hein, que s'est jouée la définition de ce colloque, avec dès lors la formulation d'une définition qui est véritablement commune, hein, ça s'est joué dans des échanges de mails pour la présentation du papier, une définition que certains d'entre vous ont repris, ont commenté, qui a fait réagir, et c'était le but, pour poser une question qui nous semblait être à la fois une question d'actualité historiographique, mais aussi une question d'actualité politique. Et là, je reviens aussi peut-être sur les origines du programme de Jean-Philippe dans les années 80 sur la genèse de l'État moderne, hein, c'est-à-dire que les juristes, et notamment Albert Rigaudière, qui nous a renvoyé un mail très aimable au moment de la définition du programme, nous a dit « Enfin, quelqu'un organise un colloque sur cette question-là pour l'époque médiévale et l'époque moderne », en disant qu'il y avait là un vrai défi que n'avaient pas relevé les juristes, d'ailleurs, de cette façon-là. Bon, les historiens lancent cette initiative, mais en tout cas, la présence des juristes ici montre qu'il y a, mais c'est vrai que vous êtes quasiment tous spécialistes de la production sociale du droit, donc vous êtes déjà attentifs, hein, vous n'êtes pas dans ce monde des légitimistes qu'a décrit Pierre Bonin. Vous êtes déjà attentif à ces problématiques, mais en tout cas, il y avait là, je crois, un défi historiographique et un défi politique aussi, parce que malgré tout, je crois qu'on ne peut pas oublier, oublier une question. Il y a eu plusieurs rencontres qui sont organisées mais y compris le programme de Jean-Philippe sur le pouvoir symbolique. Qu'est-ce que le pouvoir symbolique aujourd'hui? Le pouvoir symbolique n'est-il pas en crise? N'y a-t-il pas de façon générale une crise d'autorité? N'y a-t-il pas de façon générale une redéfinition, en fait, des principes qui régissent nos sociétés contemporaines? Et n'y a-t-il pas finalement une crise aussi du système représentatif aujourd'hui qui pose une vraie question politique, qui est que quelle est la société que nous construisons aujourd'hui? Quel sera son régime de constitutionnalité? Avec d'ailleurs la question un peu difficile qui se pose pour nos sociétés, qui est la transformation, la réécriture ou l'adoption de nouvelles constitutions. Et on sent bien que tous les mécanismes pour ce faire sont un peu bloqués, hein, puisque dès que l'on parle, en tout cas pour la France ou d'autres pays, de réforme de la constitution, de changer de constitution, cela provoque des crises ou des drames plus psychologiques d'ailleurs qu'institutionnels, en fait. Alors, je crois qu'on est un peu à l'intersection de cette question historiographique et cette question d'actualité. Il y avait donc un intérêt à poser cette question. Et donc, vous remerciez d'avoir, je crois, répondu sur ces deux aspects, finalement, parce que toutes vos communications ont été des leçons de méthode, hein, tout d'abord, la façon dont les sources ont été abordées, mais aussi des leçons, je crois, d'histoire, de façon générale, c'est-à-dire de personnes qui réfléchissent ensemble sur notre présent à partir d'autres sources, mais qui se posent toujours la question de qu'est-ce qui intéresse aujourd'hui notre société. Or, je crois qu'il y a peut-être des choses à retenir de tout ce que nous avons dit sur ces deux plans. Alors, j'aimerais, pour ces conclusions, faire peut-être un tour d'horizon. J'ai maintenu pendant tous ces débats un silence un peu religieux, parce que je ne voulais pas intervenir au moment des débats. Et puis, je crois qu'il est important de parler de tout le monde, parce que c'était une construction un peu collective de cette réflexion. Alors, si vous permettez, je voudrais pour chaque intervenant dire 2-3 points, en fait, afin de faire la recension et ensuite simplement détacher, enfin, ou souligner 3 aspects qui me semblent importants et qui sont, en fait, l'ébauche de ce que sera la conclusion réelle, que, bien entendu, je n'ai pas eu le temps de faire pendant l'heure que j'ai eue pour la préparer, et puis que je n'ai pas eu le temps de faire non plus pour une raison, c'est que le colloque est une chose, le livre est autre chose, C'est-à-dire que nous attendons bien entendu vos communications, mais sans doute allons-nous en susciter d'autres pour compléter certains points afin justement de pouvoir enrichir en fait certains aspects qui n'ont pas été assez évoqués. Alors Jean-Philippe, ton introduction a été programmatique, hein, comme d'habitude. Je crois que tu as souligné d'emblée les deux points essentiels, hein, qui ont un peu constitué les colonnes vertébrales de notre réflexion, c'est-à-dire en gros la constitution comme organisation et la constitution comme limitation. Hein, je crois qu'on a navigué à peu près tout le temps sur cette idée. Quelque chose d'autre que j'ai apprécié en fait dans ton introduction, mais que tu n'as pas vraiment développé, c'est la question du passage du pluriel au singulier, hein, des constitutions à la constitution, on pourrait dire aussi des contrats au contrat. Hein, c'est-à-dire, j'allais dire, des particuliers au collectif aussi, d'une certaine manière, parce que l'enjeu qui est derrière cela, c'est bien entendu la question de la constitution de la société politique et de la définition de la société comme société politique. Alors, bien entendu, toi, tu es plus culturaliste. Moi, j'ai tendance à être un peu plus juridique du fait de la question du contrat. Mais en tout cas, je pense que cette question, elle est vertébrale dans la réflexion. Alors, par la suite, nous avons déroulé les communications selon un ordre qui était aussi contraint, en fait, par l'organisation des journées, hein, de façon un peu artificielle. Alors, si vous permettez, je vais simplement faire une petite inversion, parce que je crois qu'en fait, enfin, en tout cas, l'envie que j'avais, c'était pas tout à fait de commencer, en fait, par une sorte de trilogie régressive, hein, entre Pierre Bonnin, José Manuel Nieto et Diego Quaglioni, en fait. Pour une raison, hein. La question, ce débat qu'a rappelé aujourd'hui Pierre Bonnin sur légitimiste et non légitimiste, hein, de la France du 19e siècle et 20e, en fait, nous ramène à quelque chose, c'est la recomposition du passé, en fait. Hein. Et on est d'emblée, je crois, confronté, lorsqu'on réfléchit à cette question constitutionnelle, à une sorte de formatage de nos lectures, de l'idée de constitution qui sont liées en fait à ces débats, qui sont parfois des débats contemporains. Et si on remonte ainsi, et notamment cette fiction de la loi fondamentale que vous avez montrée ce matin, ou en tout cas la création, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est qu'on est sans doute entre le 18e et, fin 18e, en tout cas 19e, surtout le 19e sans doute, dans un moment de laboratoire en fait, laboratoire de médiévistique, je ne fais pas un rapport au laboratoire, mais c'est quand même un peu ça, c'est-à-dire de mise en ordre d'une certaine idée du Moyen-Âge, avec une mise en ordre du Moyen-Âge idéologique, une mise en ordre du Moyen-Âge archivistique également, qui a commencé plus tôt, hein, qui a commencé au XVIIIe siècle. Et il me semble qu'il y avait là un lien naturel entre votre communication de ce matin, celle de José Manuel Nieto, ensuite, lorsqu'il a justement montré comment s'était élaborée cette idée de constitution historique en rapport avec des débats constitutionnels qui sont ceux de la constitution de Cadiz en 1812, et donc de, disons, la fondation d'un État moderne au sens où on l'entendrait aujourd'hui, et cette question du passé inventé, et finir cette généalogie contractuelle, parce qu'elle est là, cette généalogie contractuelle, avec la communication de Diego Quaglioni ce matin, que j'ai manqué, mais il m'a donné en fait hier soir, il m'a envoyé par mail sa communication, donc je sais ce qu'il a dit, puisque j'ai manqué le début. C'est finalement cette idée que cette idée d'une réticence à utiliser le terme de constitution, parce qu'en fait, la limitation, elle n'est pas dans la constitution, elle est ailleurs, hein, elle est dans un système qui est en quelque sorte surplombant, qui est d'ailleurs peut-être plus juste naturaliste que constitutionnaliste. Hein, et ça a été très étonnant de voir, surtout en fait, les juristes réfuter l'intérêt d'utiliser de la notion de constitution, parce qu'on sent bien que leur système en fait constitutionnel, il est au-delà du droit, en deçà ou au-dessus du droit, mais en tout cas qu'il n'est pas dans le droit et que ce n'est pas à ce niveau-là que se joue finalement la constitutionnalité, comme si elle était avant la norme en quelque sorte, hein, et d'où l'intérêt aussi de faire ce parcours entre le Moyen-Âge et l'époque moderne pour voir justement quand surgit la norme, quand est-ce qu'on normativise. Et je pense que c'est à chaque fois, dans chaque société, des enjeux de société, des enjeux d'actualité, parce que c'est la question finalement de l'inscription de la garantie, mais j'y reviendrai après. Alors, une fois que ces choses sont fixées, c'est-à-dire la généalogie constitutionnelle réelle, c'est-à-dire partons de notre idée de constitution pour aller vers ce que nos anciens prédécesseurs pouvaient considérer comme constitution, se pose le lien, je crois, évidemment, avec la question du contrat, et Diego Quaglione il a rappelé aujourd'hui, en montrant que la filiation, en fait, réelle, entre le constitutionnalisme, enfin, avec le constitutionnalisme, c'est le contractualisme, d'où, bien entendu, aussi, hein, cette idée d'achever l'enquête sur le contrat par une interrogation sur le constitutionnalisme. Et cette fois-ci, on peut reprendre à peu près, je pense, le déroulé du programme, en fait, hein, qui, vous l'observerez, malgré les titres, laboratoire de constitutionnalité et autre chose, est un programme qui a été finalement assez chronologique, parce que je crois que finalement, ici, pour cette réflexion, prendre le temps tel qu'il passe, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Alors le contrat, Frédéric Boutoul a été finalement le premier à nous en parler au travers des chartes, hein. Une communication qui à la fois nous a ramené vers des sujets un peu habituels, parce qu'on est quand même beaucoup ici à s'occuper de discours, hein, et des thèmes inhabituels, c'est-à-dire des choses qui sont davantage liées à l'histoire, j'allais dire réelle, l'histoire matérielle, hein, c'est-à-dire la croissance démographique, l'émigration et ce genre de choses. Et je trouve que vous avez montré parfaitement comment finalement ces choses s'articulaient, comment dans un moment de transformation en fait sociale qui ébranle d'une certaine manière une communauté, eh bien il y a une nécessité de fixer, hein, de fixer et d'en appeler aussi peut-être à des mythologies politiques. Et c'est là où le discours rejoint en quelque sorte la réalité, l'économie. Avec une idée qui est la question de la délégation du pouvoir. D'où vient le pouvoir dans la société? Vient-il du peuple? En gros, vient-il du roi? Vient-il d'en bas? Vient-il d'en haut? Il y a ici une idée de procession populaire, en quelque sorte, de l'autorité. Ceci dit, avec peut-être un bémol, c'est que je pense qu'il faut toujours se méfier aussi des mises par écrit, savoir exactement, en fait, d'où elles viennent et connaître les sources. Et là, il y a, des ponts évidents qui se font avec notamment la communication de Björn Weyler sur comment le contexte, en quelque sorte, intellectuel de la Magna Carta, avec une question qui se pose, bien entendu, pour évaluer ce contexte intellectuel des textes qui sont produits, c'est-à-dire la nécessité d'opérer de l'intertextualité, de bien choisir, non pas les textes, mais vraiment les sources, c'est-à-dire, je pense, les manuscrits, en fait, les textes qui circulent, pour être sûr qu'on a là des voies d'approche qui sont possibles. Peut-être une intertextualité qui passerait par la lexicologie, mais Chris Fletcher n'a pas utilisé la lexicologie cette fois-ci, mais en tout cas qui nous pousse, je pense, à entreprendre une archéologie véritablement textuelle de tous ces textes qui sont, à notre sens, porteurs d'une certaine constitutionnalité. Björn Weyler a parlé par la suite avec ce monument, hein, qu'est la Magna Carta, qui est monumentalisé par la suite, davantage qu'au présent. Ce que nous a montré finalement Chris Fletcher dans l'identification des thèmes qu'il a employés, si j'ai bien suivi sa communication en anglais, parce que c'était aussi un défi de tous vous écouter en fait en différentes langues, mais si j'ai bien suivi sa communication, c'était en recherchant le corpus légal, ou en recherchant une constitution virtuelle, en quelque sorte, et on sent là toute la pratique de l'informatique, hein, qui est derrière, de se dire quels sont les textes qui sont fondateurs de cette constitutionnalité, et la Magna Carta, et après. On est là dans un certain rapport au temps, j'y reviendrai ensuite, parce qu'on est sans cesse, avec cette question constitutionnelle, confronté, en fait, à un présent qui s'actualise dans le passé, ou dans une référence avec le passé. Et d'une certaine manière, c'est un peu plus tardif, mais justement, c'est la rupture par rapport à cela. Notre collègue de, je me souviens plus, l'université de Reading, hein, Rachel Foxley, quand elle montre qu'il y a un changement dans le système des sources, justement, et on passe finalement à un système de sources qui est davantage providentialiste, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas où la référence à Dieu a tendance à dynamiter, en quelque sorte, hein, ce passé qu'on recompose et ce passé qu'on monumentalise au travers des textes. J'en étais où ? À Vincent Beidal. Je reprends dans l'ordre. J'étais à Björn Weyler, l'identification des manuscrits, contexte intellectuel, contexte politique, bien entendu. Hein. Il y a eu plusieurs communications sur cette question. Il y a la communication de Vicente Beidal. Il faudrait ici joindre aussi peut-être celle de Fabrizio Tittone et pas l'aborder en fait un peu plus tard, mais plutôt à ce moment-là. Également d'autres communications comme celle de Sverbar, parce qu'on a là en fait, je crois, des dynamiques de production, pas d'un ordre juridique, parce que là, le professeur Martin va me tomber dessus, l'ordre juridique n'existe pas, ou en tout cas il est en sans cesse instabilité et reconstruction, donc c'est un peu compliqué pour l'établir, mais en tout cas où l'on sent qu'il y a une sorte de mécanique sociale de la production d'un système légal ou juridique qui se met en place avec Vincent Médal, c'est la conquête, on part d'une terre vierge, sauf que bien entendu cette terre vierge, juridiquement vierge, bien entendu, elle ne l'est pas humainement, mais que ceux qui viennent l'habiter ont déjà des droits et que se pose la question de savoir ce qui va prévaloir, est-ce que c'est le privilège, est-ce que c'est la loi générale. Et c'est cette question fondamentale, peut-être qui est une vraie question constitutionnelle, pour le Moyen-Âge et pour l'époque moderne, c'est comment s'articule la loi générale et le privilège, la liberté et le bien commun. Cela nous ramène à des relations de pouvoir. Des relations de pouvoir, et c'est en cela, je crois, que l'on peut lier la communication également de Fabrizio Tittone, et qui montre à quel point la participation est importante. Ici, une participation qu'il est allé voir jusque dans les universités, hein, urbaine. Hein, urbaine, avec une question qui lui a été posée, c'est celle de la représentation. Et c'est effectivement une question importante. Plusieurs communications nous ont amené à nous poser cette question de la représentation. Diego Coaglione nous a rappelé que, notamment pour les procureurs sont convoqués, c'est de la procuration, ce n'est pas de la représentation. Et il y a là quelque chose de très actuel. Hein. C'est bien entendu la question du régime de représentation et de la définition du régime de représentation. Quelle représentation est-ce que l'on a au Moyen-Âge ? La représentation est-elle la même au XIIIe siècle, au XIVe, au XVe siècle, au XVIe, au XVIIe ? Qui s'empare de la représentation ? Qui confisque la représentation ? Peut-être aussi, d'ailleurs, les magistrats de Madame Renouz Agamé sont-ils un peu des gens qui confisquent, d'ailleurs, ces représentations, en tout cas, qui disent parler au nom de certaines personnes et représenter la communauté, le royaume, une communauté politique. Et Sverbar aussi parce que finalement sur cette question de l'élection, alors ça nous ramènerait aussi à l'Empire, bien entendu il y a là sur le principe de fonctionnement de ces régimes politiques un peu du Nord, toute la question qui se pose, et il l'a très bien montré dans la mise en série hein, de ces chartes qui lient, reconnaissance et obéissance, qui lient obéissance et limitation hein, du pouvoir, une manière de contraindre, en fait, par le jeu politique lui-même, hein, le pouvoir, ou en tout cas le pouvoir tel qu'il est détenu par le prince qui est désigné par la communauté. Au fond, c'est savoir qui crée la communauté politique. Est-ce que c'est le prince ou est-ce que c'est la société qui crée la communauté politique et qui est la tête véritable de la communauté politique. On en revient à la question de la délégation d'autorité, finalement souveraineté, que posait déjà dans ses chartes Frédéric Boutou. Alors Gisela Nagel a parlé après Vincent Bédal pour une raison, c'est qu'elle devait repartir à Francfort en fait, hein, parce qu'elle présidait le lendemain un hommage à son directeur de thèse qui est mort l'an dernier, ou il y a 2 ans, hein, Peter Moreau. Et elle nous a ramené aussi, d'une certaine manière, à une question d'échelle territoriale hein, sur la question de l'intégration des villes à l'Empire. Alors Pierre Monnet est toujours ici, il en sait bien plus que moi hein, sur l'intégration des villes à l'Empire. Moi, je n'en sais rien du tout, si ce n'est que se pose une question pour les villes, c'est la question de leur autonomie, c'est la question de la souveraineté, c'est bien entendu une question que l'on retrouve aussi hein, pour les villes italiennes, que l'on retrouve en fait pour ces corps politiques qui sont des corps politiques agrégés en quelque sorte, hein, où il y a, comme le disait Frédéric Martin, une circulation d'autorité, il faudrait dire une circulation du pouvoir dans ce cas-là, c'est-à-dire une sorte de système mouvant qui repose bien entendu à la question de la participation politique, mais non pas au niveau des représentants, mais au niveau des États, des corps sociaux qui s'intègrent dans la communauté politique. On est davantage là dans une relation de corps politique à corps politique, et peut-être que la question du traité international se pose, hein, je crois qu'elle avait été posée, je ne sais pas si toi Jean-Philippe qui avait fait la comparaison d'ailleurs avec les traités internationaux, mais en tout cas on a là non seulement un laboratoire de constitutionnalité, mais un laboratoire de droit international. Et on peut rejoindre ici les réflexions de la belle communication de William Pettigrew, qui n'est pas là ce matin, hein, sur justement ces effets de boomerang qui passent par une relation d'extériorité et d'expansion de ces corps politiques. Alors, Sverbar a parlé après, mais j'ai déjà parlé de votre communication, donc je n'en reparle pas. Et si j'en ai parlé avant, c'est justement pour parler de Gisela Lier, en quelque sorte, scientifiquement, bien entendu, Gisela Nagel et Pierre Monnet. C'est finalement, puisqu'on est dans l'Empire, la question de la bulle d'or est en fait un autre monument, hein, effectivement, textuel. Lorsque, Pierre, tu m'avais dit que tu allais parler de la bulle d'or, je trouvais que c'était une évidence et j'ai apprécié que tu rappelles que c'était considéré en gros comme un patrimoine mondial de l'humanité, que cette bulle d'or, mais en tout cas ça faisait partie comme ça des textes fondateurs. Je pense que tu es peut-être celui qui a appliqué le plus rigoureusement les différents axes qui avaient été proposés, et notamment sur une question importante et qui forge aussi la constitutionnalité, c'est la question de la forme. Non pas seulement celle du contenu. Alors bien sûr, il y a un contrat politique dans la bulle d'or. Tu nous as très bien montré comment cela règle les rapports de l'empereur et des princes électeurs. Mais c'est cette question de la constitutionnalisation par la forme et par le format qui me semble extrêmement intéressante ici. Elisa Ruiz est là dans la salle à qui j'avais demandé de participer à ce colloque dans un premier moment. Il n'y avait pas assez de communication qui abordait cette question de la matérialité de la Constitution. Donc, du coup, elle a accepté de venir au séminaire de code écologique que nous organisons avec Jean-Philippe à partir de jeudi sur manuscrits bibliques et juridiques pour nous parler de ces questions-là avec les compilations d'ordonnances. Et d'ailleurs, c'est un projet auquel sont liés également des juristes qui sont dans la salle. Mais je pense que cette question du format, et je la signale ici parce que je ne vais pas pouvoir la signaler pour d'autres communications, ce que je vous ai montré sur les manuscrits hein, de cette bulle d'or, cette inscription d'un texte que la tradition, hein, que l'histoire postérieure de texte montre que c'est un texte constitutionnel, qu'il est constitutif, mais il est constitutif parce qu'il est constitué lui-même hein, en tant que texte constitutif. Et je crois que c'est une dimension extrêmement importante et qui enrichit en fait notre vision de ce qu'est la Constitution. Alors, Michel Hébert a pris la suite hein, en insistant sur la démarche hein, constitutionnelle de... c'est Marie de Blois ? Non, c'est Marie d'Anjou. Hein. De Blois. C'est Marie de Blois. En montrant quelque chose qui est important, c'est comment est-ce que l'on fixe finalement le pacte ou l'on inscrit ce pacte-là au moment du ralliement, hein, d'une dédition en quelque sorte. Hein, il y a un pacte d'obéissance qui est signé. Et à ce moment-là, ce que tu nous as montré, c'est finalement, et ce qui était très intéressant, c'est comment se fait l'ordre hein, des serments qui sont passés et qui montrent qu'on est en fait dans une obéissance sous condition. Et là, il y a un pont, je pense, à établir aussi avec la communication de Gianmaria Varanini ce matin. Il m'a passé son texte également hier. C'est-à-dire sur la question comment est-ce que, finalement, on passe d'une domination à une autre, ou du moins d'une autonomie, d'une situation d'autonomie et de quasi-souveraineté à une situation de dépendance, et que ce passage de l'autonomie ou de la souveraineté à la dépendance fait que l'on inscrit, en quelque sorte, dans le marbre une série de droits qui forme. Alors, Gianmaria Varanini, dans sa communication écrite, parlait de l'ADN, en quelque sorte, constitutionnel de ce régime-là. Et je crois qu'on est un peu dans le même cas de figure. On pourrait parler également d'ADN pactiste, en quelque sorte, pour le régime politique qui s'installe avec ces textes-là. Alors, ces textes-là, qui en même temps sont compliqués, hein. Et j'ai parlé de la communication de Fabrizio Titone avant, justement, pour pouvoir parler de celle de Jonas Brakveld juste après. Hein, ce que montre Jonas Brakveld, parce que finalement, historiquement, on a plutôt tendance à considérer que c'est un peu la même, pas la même chose, sous proportion gardée, mais en tout cas que le Grand Privilège de Flandre de 1477, à partir du moment où ça marque l'entrée, disons, dans une autre sphère d'influence, serait justement ce contrat passé entre le nouveau prince et la communauté politique. Ce que nous montre, en fait, Jonas Brakveld, c'est que ce pacte-là doit énormément, en fait, à la législation des ducs de Bourgogne et que, par conséquent, c'est une normalisation de l'État bourguignon qui se joue dans le Grand Privilège de Flandre. Hein. Et on a la même chose dans d'autres, d'autres zones, c'est-à-dire qu'en fait, on assiste, sous couvert du pacte, à la normalisation d'un corps juridique, hein, ou d'un corps légal qui n'est pas forcément lui-même pactiste, hein, ou qui ne l'est pas seulement. Hein. Et d'où l'intérêt, bien entendu, de procéder à l'intertextualité, d'où l'intérêt d'une partie de ton programme, Jean-Philippe, qui est le traitement des corpus, hein, parce qu'il n'y a vraiment que dans l'étude sérielle que l'on peut se rendre compte de ce genre de, pas de manipulation, mais en tout cas de transport, ou presque d'hybridation aussi, pour reprendre, ou de glissement, voilà, pour reprendre un terme que vient de me souffler Jean-Philippe, qui m'a vu en difficulté. Normalisation de l'État monarchique, en parlant de la Bourgogne, parce que c'est bien l'ambition en même temps de la Bourgogne que d'être un État monarchique, et d'une légalité qui n'est pas non plus proprement bourguignonne, parce qu'elle est aussi française, hein, d'une certaine manière, et c'est derrière aussi toute la question de la réforme et de la constitutionnalisation, hein, de la question de la constitution par la réforme, mais j'entends constitution cette fois-ci en jouant sur le sens des mots, comme création, hein, d'un ensemble politique. Corps de doctrine, Chris, je ne reparle pas de ta communication, j'en ai déjà parlé, mais on est en plein dedans avec la façon dont tu as traité les common petitions du Parlement anglais. Un corps politique avec cette codification, en quelque sorte, cette normalisation qui passe par l'inscription qui se constitue. Et j'en viens à Carlos Lalien. Où est-il ? Il est là, je ne vois pas. qui, de manière très obéissante, a traité de non pas de la couronne d'Aragon, mais plutôt de l'Aragon, en fait, dans la couronne d'Aragon au début du XVe siècle, et qui nous a montré quelque chose et qui a souligné quelque chose de très important, c'est le rapport des corps politiques, le corps du prince et le corps, la communauté politique, en insistant sur quelque chose, c'est comment cette distance crée un vide symbolique et comment ce vide symbolique devient finalement une occasion. Hein, je crois que c'est comme ça qu'il faut peut-être l'envisager, une occasion pour un autre corps de grandir, de s'institutionnaliser, et c'est la représentation des Cortes, avec quelque chose qui rejoindrait en fait la question de la constitutionnalisation matérielle. Je vous ai montré comment un palais de la députation, je ne me souviens plus si c'était de la députation ou les Cortes, s'était construit à ce moment-là, que des commandes étaient faites et qu'il y a donc monumentalisation, hein, de cette constitution politique, mais qui est ici une construction institutionnelle. Alors, construction institutionnelle, vide symbolique, la question qui se pose en fait avec ces codes et progressivement cette inscription légale, c'est la question de l'existence ou pas d'un ordre juridique, d'un ordre légal. Hein, c'est une question très compliquée. Les juristes ont, j'ai l'impression, plutôt tendance à dire finalement ça n'existe pas, hein, l'ordre juridique. Ou alors que c'est tout le temps flottant et la circulation, l'idée qu'a évoqué Frédéric Martin d'une circulation d'autorité me semble extrêmement intéressante, avec une évolution, mais je lui ai fait ce commentaire par rapport à sa thèse, hein, cette notion de dualité et cette notion de reconnaissance, hein, qu'il a évoqué rapidement parce que le temps pressait, mais qui montre que de toute façon, si un ordre se construit, même si on ne peut pas l'appeler comme ça, c'est forcément quelque chose qui se construit à deux, ou en tout cas dans un dialogue, dans une interaction. Hein, et que c'est cette interaction qui va... Cette interaction, son but, ce n'est pas forcément de produire de la stabilité juridique non plus. En fait, c'est ça qui est important, j'ai l'impression. Hein, c'est que, c'est une question essentielle pour le constitutionnalisme. J'ai quand même l'impression que l'instabilité est plus intéressante que la stabilité. Mais pour l'ensemble des partenaires, pour le prince, bien entendu, qui n'a pas forcément besoin de voir complètement inscrit l'absoluité de ce pouvoir dans la Constitution, mais également, en fait, pour ceux qui sont censés être soumis à ce pouvoir plus absolu, parce que c'est aussi l'occasion de renégocier, en fait, leur relation à l'intérieur de cet ordre juridique qui est instable. Alors, c'est un peu étonnant, parce qu'on est quand même à une époque, 15e siècle, hein, votre thèse porte sur le règne de Louis XI, hein, où on a en même temps cette demande, je pense ici au Cortes, de stabilisation du droit. Hein, et cette demande est constante, je crois qu'elle est... Elle est également française, en fait, cette demande de stabilisation du droit. Elle est d'une certaine manière également portugaise, hein, cette demande de codification, hein, au XVe siècle. Et José Dominguez nous a montré, hein, qu'en fait, cette codification commençait avant cette demande, et que, par conséquent, on ne peut pas, je pense, lire uniquement cette demande de codification dans un sens, et qu'elle est plus diverse politiquement dans son sens, dans ce sens ultime. Alors, Monsieur Jérémy Ferrer n'est pas venu, donc du coup on est passé directement de la communication de Frédéric Martin à celle de Marie-France Renoux-Agamé. C'était très bien comme ça, d'une certaine manière, parce que non seulement ça nous a permis d'aller plus vite, en quelque sorte, mais Frédéric Martin avait en gros introduit en quelque sorte cette question du contrôle de civilité dans sa communication, que vous avez développée ensuite. Alors, je viens de parler de cette question des magistrats, hein, qui confisquent sans doute cette représentation. J'ai particulièrement apprécié ce changement, ce glissement que vous avez opéré entre loi fondamentale et loi inviolable, en fait. Hein, parce que c'est sans doute là qu'est la clé de la constitutionnalité. Alors, vous n'avez pas voulu nous dire que le contrôle de civilité, c'est l'origine de cette question prioritaire de constitutionnalité, mais en même temps, c'est un peu lié quand même, parce que la question que ça pose, c'est la question de la conformité de la loi au droit, hein, et une conformité de la loi au droit dont le roi ne peut pas être juge, hein, finalement. Et c'est dans cette extériorité, finalement, qu'est peut-être la plus grande limitation du pouvoir royal, hein, d'être obligé d'en appeler à un corps qui dépend de lui, mais qui montre toute son indépendance, pour instituer un ordre légal, ou pour instituer un ordre légal qui, en plus, j'apprécie tout particulièrement votre dernière référence, hein, vous nous avez ramené à la parole de Dieu, à cette parole fondatrice qui ne parle qu'une fois, et c'est celle-là la parole d'autorité. C'est la seule parole d'autorité, c'est celle qui s'est exprimée une fois et qui résonne à jamais. Mais c'est comme celle du poète aussi. À la rigueur, il y a, à mon sens, une seule parole fondatrice, c'est celle de Dieu et celle du poète, mais en même temps, celle du poète est aussi celle de Dieu. Donc, voilà. Alors, contrôle de civilité, parole fondatrice, un corps, une institution qui confisque le contrôle, la vérification de la conformité de la loi au droit. Et cette question des corps et des institutions nous amène au pactisme, il me semble, hein, puisque deux communications ont abordé plus particulièrement ce thème pour le cadre. J'entends pactisme historique, c'est-à-dire le pactisme institutionnel tel qu'il a été pratiqué en péninsule ibérique. La communication de M. Sanchez Lauro et de M. Fernández Albaladejo à des moments différents, hein, de ce pactisme historique, puisque M. Sanchez Lauro a évoqué plutôt, disons, l'intégration, hein, ou du moins le respect de la tradition pactiste par les Habsbourg, et que M. Albaladejo a mis le regard sur ce qui est censé être le moment de liquidation de ce pactisme. Mais ce qu'il nous a montré, c'est que cette lecture ne peut pas être aussi simple, hein, et que sous la question de la liquidation, il y a sans doute des relectures contemporaines également qui sont faites, et le thème est extrêmement brûlant, bien entendu, pour l'Espagne de ces dernières années, de ces mois-ci et de cette semaine même, hein. C'est-à-dire qu'on est là toujours dans quelque chose qui est d'actualité, hein, avec des passés recomposés également ici qui sont extrêmement forts. Ça pose une autre question, je crois. Alors, je parlais d'un des corps de l'État qu'est le Parlement, avec la communication de Madame Renoux-Agamé, mais dans ce corps de l'État, il y a une relation entre les corps de l'État. Or, on est peut-être là aussi sur un schéma, un système qui est celui de la. Comment se place, quelle est la hiérarchie des corps dans l'État, hein, comment fonctionnent ces corps entre eux? Et ça nous ramène peut-être, ou en tout cas, on peut établir un lien, quel est le lien des royaumes entre eux, quelle est la place qu'ils ont et qu'ils estiment devoir avoir dans une construction politique. Et on retrouve là la question du centre et de la périphérie. Et M. Albaladejo nous disait, ou M. Sixto, non, c'est plutôt M. Sanchez Lauro qui nous rappelait que finalement, il y avait une sorte de périphérisation, hein, de la couronne d'Aragon dans le système de la monarchie hispanique qui sans doute expliquait un certain nombre d'atrophies institutionnelles. C'est-à-dire qu'en fait, on est sans cesse dans des relations qui doivent être actualisées ou réactualisées et qui se modifient. Centre-périphérie, la communication de M. Dominguez. Je fais un peu exprès parler de centre-périphérie parce que finalement, on est dans la péninsule ibérique toujours avec le Portugal. Portugal qui, à un moment donné, a intégré la monarchie hispanique et qui a montré finalement très tôt sa différence, en quelque sorte, et une différence nationale. Et merci d'avoir accepté de, à partir du travail de thèse que vous avez réalisé sur la codification, sur les origines de la codification de la loi Alfonsine. Et ce que vous avez montré, c'est qu'en fait, elle commence bien avant, dès les années 1370-1375. Ce que vous montrez, finalement, c'est comment cette identité nationale portugaise, en quelque sorte, se construit également par la loi, qu'il faut lier le mouvement révolutionnaire qui aboutit à, non seulement le choix d'un roi portugallo-portugais, en quelque sorte, mais en plus au rejet d'un régime juridique qui était trop castillano-influencé, avec, dès lors, la construction d'un droit propre. Ce qui est extrêmement important, et au travers de ce droit propre, dès lors, la définition d'une nouvelle centralité politique, qui est celle de l'autonomie souveraine du Portugal, avec une nouvelle dynastie qui se met en place et qui qui lie en quelque sorte révolution, codification et révolution et stabilisation de l'ordre juridique. La question qu'on se posait tout à l'heure sur le mouvement, sur le changement, la permanence, ici, on a en quelque sorte une révolution stabilisatrice du point de vue juridique par la codification qui est réalisée. Centre, périphérie, relations des territoires, la communication de Jérôme Loiseau sur, là aussi, la question de l'intégration territoriale des espaces bourguignons, la Franche-Comté et le duché de Bourgogne, à la France pour l'un, à l'Espagne pour l'autre, et puis la relation ensuite de ces territoires, dont il nous a montré qu'ils sont eux-mêmes en situation en quelque sorte de conflit du fait de ces appartenances diverses, alors qu'ils sont voisins. Mais quelque chose qui m'a particulièrement intéressé, Jérôme, dans ta communication, c'est la question de la liquidation du contrat, en fait. C'est-à-dire, comment est-ce que la grâce, tu parles de la révolution de la grâce, moi je parlerai de la liquidation du contrat, comment est-ce que le passage, finalement, du contrat à la grâce fait que l'on, on liquide, en fait, on obtient beaucoup plus par la grâce que par le contrat, mais parce qu'en fait, on a dynamité complètement le cadre contractuel. Et que, en dynamitant le cadre contractuel, on a sans doute atomisé la relation, en fait, entre le prince et ses gouvernés, dans cet échange qui est celui presque que tu nous as décrit, si je me souviens bien, des mots de Clavero, c'est l'antidora, c'est l'échange à la grâce, c'est mais qui est, en fait, qui oblige beaucoup plus que n'importe quel autre. Contrat, parce que c'est le contrat d'amour et qu'il est d'une certaine manière infini, ce contrat-là, et que on a dès lors un manque de protection, en fait, une defensión en français, ce serait, une insécurité juridique qui se fait du fait de la mise en place de cette révolution par la grâce. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. De la grâce à Dieu, il n'y a qu'un pas, c'est la communication de Rachel Foxley sur le changement du régime des sources, dans ce moment radical, révolutionnaire qu'elle nous a décrit avec les niveleurs anglais, les levelers, où il y a une sorte d'utopie aussi en même temps qui se met en place ici. Alors je ne sais pas, je ne lui ai pas posé la question directement, mais j'en profite maintenant, elle me répondra plus tard lors du déjeuner peut-être. Est-ce qu'il y a finalement un lien qui peut se faire entre cette idéologie des levelers et des mouvements antérieurs en Angleterre, notamment je pense le révolte des années 1380, où il y a une sorte de providentialisme aussi dans l'idée d'une sorte d'égalité qui serait presque, pas une égalité républicaine, mais en tout cas un régime d'égalité, et qui passe aussi par une sorte de recharge religieuse du message politique. Car c'est ça qui m'a un peu étonné finalement à vous entendre. Je trouve qu'on a beaucoup plus parlé de Dieu, de la grâce, du droit naturel à l'époque moderne, finalement, qu'au Moyen-Âge. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est la réforme qui explique cela? Est-ce que c'est, les conflits religieux qui ont rechargé religieusement les messages politiques? Est-ce que c'est du fait des réformes comment dire, la crise de la royauté, et donc dès lors une nécessité de resacraliser en quelque sorte la royauté par cet appel aux religieux. Mais en tout cas, je constate simplement qu'on a beaucoup plus parlé de Dieu pour l'époque moderne que pour l'époque médiévale, et j'en étais un peu étonné. Hein. Quand on passait de Dieu à William Pettigrew, à la colonisation, ça a parfois servi de prétexte, après tout, l'évangélisation pour ces opérations. Mais là, ce n'était pas le cas pour William Pettigrew. J'ai particulièrement apprécié dans sa communication cette idée du boomerang constitutionnel. Cette idée que par retour, l'expansion provoque des changements dans les régimes politiques et dès lors provoque finalement une inscription qui est plus forte. Qui me reste-t-il ? Andrea Zorzi. Gianmaria Varanini, j'en ai déjà un peu parlé. Il reste Andrea Zorzi sur la question du lexique. Cette idée, là aussi, mais on rejoint finalement la communication, les communications de Pierre Bonin, de José Manuel Nieto Soria, en tout cas sur l'introduction de ta communication, sur l'idée que la City République, cette mythologie de voir dans les cités-États italiennes l'origine de nos libertés constitutionnelles, tu dis que c'est une mythologie, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que tu nous montres qu'il y a quand même des éléments à conserver, c'est cette question d'un langage commun. Ce langage commun, c'est celui de la liberté, c'est celui du bien commun. Or, je ne crois pas qu'il soit seulement... La liberté, c'est peut-être un peu différent. Mais pour le reste, le bien commun et d'autres aspects de cet ADN, là aussi, de la statualité, en fait, de la citoyenneté, disons, républicaine dans les villes italiennes, en tout cas, pour le bien commun, je pense qu'il est partagé par d'autres, comment dire, d'autres catégories, d'autres États, bien entendu, et que c'est sans doute, en fait, le langage commun. Mais c'est ce langage commun qui est sans doute aussi derrière toutes les constructions proto-constitutionnelles ou pré-constitutionnelles. Hein, cette idée que, finalement, le bien commun, l'idée de république, mais république, et là, je reprends les mots de Rousseau, c'est le régime légitime. Hein, ce n'est pas forcément la forme républicaine, c'est le régime légitime. Alors, sur cette base un peu besogneuse, vous voyez, j'ai pris des notes comme ça pour faire, que puis-je dire d'autre ? Que puis-je dire d'autre ? Simplement trois choses. Si je devais écrire maintenant l'introduction, en fait, il me semble qu'il y a peut-être trois éléments qui me semblent constituer la possibilité d'un récit conclusif. D'abord, on est tous d'accord, mieux vaut parler peut-être de constitutionnalisation que de constitution. J'ai l'impression que c'était un avis partagé. Or, dans cette constitutionnalisation, moi, ce qui me frappe en écoutant vos communications sur la question justement de ces passés recomposés, des mythologies qui sont mises en œuvre dans les textes eux-mêmes, c'est que je crois que dans ces procédures de constitutionnalisation, il y a toujours un rapport au temps qui se joue. Et ce rapport au temps, il me semble essentiel parce que finalement, dans les procédures de constitutionnalisation, on est sans cesse en fait dans une sorte de schizophrénie temporelle. Dans ces chartes, c'est un rapport au passé qui se joue, ce sont des mythologies politiques, c'est-à-dire qu'on est toujours confronté à du déjà-là, quelque part, dans ces codes, dans ces lois. Pourquoi est-on confronté à un déjà-là ? Parce qu'en fait, ce qui se joue, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance des libertés, c'est la reconnaissance des privilèges, c'est la reconnaissance d'un passé. Mais on n'est pas seulement face à du déjà-là, on est aussi dans la volonté d'inscrire de façon pérenne et pour l'éternité, si possible, autre chose. Or, ce qu'il s'agit d'inscrire dans la Constitution, et c'est mon idée, la première idée que je développerai dans la conclusion écrite, c'est que Constitution, procédure de constitutionnalisation, c'est peut-être une façon d'articuler deux choses. Une chose qui a un rapport au passé, c'est la reconnaissance, et une chose qui a un rapport à l'avenir, c'est la promesse. La promesse que cette reconnaissance sera bien pérennisée. Deuxième idée, simplement, vous voyez, je suis très bref, c'est que si on a dans l'idée d'une procédure, une constitutionnalisation, cette articulation entre reconnaissance et promesse, c'est parce que sans doute ce qui est en jeu derrière, c'est la garantie. Et que je crois que dans cette idée de constitutionnalisation, ce qui se joue, c'est la définition, la redéfinition, le changement du système de garantie. Donc c'est la deuxième idée. Et ce système de garantie, si l'inscription constitutionnelle, cette fois-ci, je parle de la mise en texte, doit se faire, c'est parce que sans doute, y a-t-il une crise du système de garantie, par exemple, la fin des otages, des châteaux échangés, ce genre de choses, c'est plutôt 11e, 12e siècle, il y, n'y a plus qu'une garantie possible, en fait. Hein, c'est la parole donnée, je crois. Tout ce développement du serment, hein, et de ce serment qui constitue le, comment dire, le, l'expression de Prodi sur le serment, c'était le continuum. Le continuum contractuel, il passe par la parole, il passe par la parole échangée. Et c'est parce que cette garantie et le système de garantie est fondé sur la parole que se pose la question ultime de l'inscription du système de garantie dans la loi et dans un système juridique. Or, cette question de l'inscription, et ça c'est un reproche que je me fais à moi-même davantage qu'à Jean-Philippe, hein, sur l'organisation, c'est que je crois que cette inscription, elle n'est qu'en partie juridique en fait, elle n'est qu'en partie normative, et qu'il y a sans doute d'autres régimes d'inscription de la constitutionnalité, notamment la littérature qu'on n'a pas du tout évoquée. Est-ce que les grandes chroniques de France, par exemple, commandées par Charles V, font partie de la définition d'un régime de constitutionnalité de la monarchie française ? Est-ce que les chroniques castillanes qui sont commandées par le pouvoir royal à partir de la fin du XIIIe siècle font partie aussi de la définition d'un régime de constitutionnalité ? Et si je pose la question, c'est parce que, bien entendu, ces textes-là racontent une histoire, hein, et racontent justement la fondation politique de ces sociétés. Voilà.